Radio Panique, vous êtes le seul auditeur.
La seule auditrice. Léa, seule auditrice. Seul auditeureux. Léa, seule auditrice. Vous êtes tous à l'écoute. Radio Panique, inclusive, en chantier.
Nous comptons sur vous.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Alimata Fofana, la marraine de la campagne de prévention de l'excision avant les vacances. On va être un moment ensemble dans un dialogue. Moi, c'est Fabienne Richard, je suis la directrice du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, qui travaille en Belgique depuis plus de 25 ans maintenant dans la lutte contre l'excision. Et cette année, on a décidé de faire une grande campagne nationale avant les vacances. Nous sommes en mai 2023 et on sait que des petites filles, malheureusement nées en Belgique, risquent d'être excisées lors des séjours en vacances dans leur pays d'origine. Donc Alimata Fofana, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais après vous allez bien la connaître, elle est passionnée de littérature, de théâtre et d'écriture. En 2015, elle a publié son premier livre, « Mariama, l'écorchée vive », un récit qui interroge avec une énergie singulière la situation de nombreux jeunes qui se sentent tiraillés entre deux cultures, elle y reviendra tout à l'heure, deux territoires, deux avenirs. Elle est aussi à l'origine d'un documentaire réalisé par Anne Richard, « À nos corps excisés », qui a été diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte. Et elle est l'auteur et personnage principal de ce film. Elle vient aussi de sortir son second livre, « À l'ombre de la cité Rimbaud », et qui revient sur le traumatisme de l'excision et de ses conséquences, mais pas que, on verra qu'elle aborde d'autres sujets. Donc aujourd'hui, Alimata Fofana se consacre à l'écriture et à la réalisation de documentaires. Donc bienvenue Alimata.
Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation et je suis très heureuse d'être la marraine pour la campagne de sensibilisation avant les vacances pour la Belgique.
Voilà, alors cette campagne, on l'a voulu à multifacette, on a voulu toucher les jeunes d'abord. Peut-être que les jeunes, certaines jeunes ont déjà été concernées ou que des petites filles ou des petites sœurs dans leur famille sont à risque. Et on a créé un outil pour les écoles à partir du dernier livre d'Alimata Fofana où on a pris certaines verbatimes, certains passages qui étaient très très parlants sous une forme de jeu de cartes et en classe on peut piocher, voilà, on prend une carte, deux cartes et puis on voit à nous comment ça nous parle dans nos propres familles et tout à l'heure on va faire l'exercice, voilà, je vais prendre les cartes et comme ça on va le découvrir ensemble et on verra comment ça résonne aussi chez Alimata. On a fait aussi des marque-pages avec des numéros d'urgence pour des petites filles à risque. On va organiser des formations pour les professionnels avec le détectomètre qui est un outil pour évaluer les risques avant l'excision. Et puis aussi, toute cette semaine avec Alimata, on circule, on est allé à Gand, à Bruxelles aujourd'hui, demain on est à Liège pour parler de cette campagne et des meilleures stratégies de prévention. Et donc à ce titre-là, on a fait un petit spot très court et très percutant que vous allez écouter maintenant.
J'avais 5 ans. Je suis partie en vacances dans mon pays d'origine. Ma tante m'a dit qu'on allait au marché. Je n'ai rien compris de ce qui se passait. J'ai été excisée à l'âge de 5 ans. J'ai cru que j'allais mourir. On m'a volé mon innocence. Brisons le silence autour de cette violence.
Donc on vous invite vraiment tous et toutes à retrouver ce petit film sur le site du GAMS, à le diffuser sur les réseaux sociaux. Le plus important, c'est que le plus de personnes possible puissent l'écouter et que ça touche les gens et que ça fasse un déclic pour aller plus loin, pour réfléchir autour de la question des mutilations sexuelles et surtout arrêter la pratique. Et donc, on va être ensemble avec Alimata Fofana. Et comme fil conducteur de notre entretien aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi l'outil qu'on propose dans les écoles pour vous donner aussi envie de l'utiliser. Voilà, s'il y a des profs qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, j'ai adoré le livre « L'ombre de la cité Rimbaud ». Parce que ce n'est pas un livre qui parle que d'excision, c'est beaucoup plus large que ça. Et on voit dans tout le contexte que Maya, la petite fille qui est la narratrice principale, vit. Et donc dans les cartes, je vais vous lire des passages et je demanderai à Alimata, voilà, ce passage-là, comment ça résonne en elle. Voilà, le premier passage. Comme je passe beaucoup de temps à faire le ménage à la maison, j'arrive toujours en retard à l'école. On me surnomme retardataire et je suis régulièrement collée. Mais qu'est-ce que je peux dire à mes professeurs? Je suis fâchée contre eux. Fâchée contre HLM, mon ami. J'ai l'impression que personne ne cherche à savoir dans quel univers je vis. Je leur en veux de ne pas deviner ce qui se passe. Il suffit de regarder ma mère pour comprendre.
Oui, oui, c'est vrai que c'est un passage qui est fort, parce que pour moi, je voulais vraiment mettre en avant les difficultés qu'on peut avoir quand on est pré-ado, ado, et le fait de vivre comme dans deux mondes parallèles. Et on n'imagine pas, les enseignants, certains enseignants n'imaginent pas que l'élève, quand il arrive avec un monde. Il n'arrive pas dénué de culture, de tradition, il arrive avec tout un monde. Et là, avec Maya, ce qui est frappant, c'est que la famille a beaucoup de mal avec les horaires. Ici, on est très à cheval sur les horaires et dans sa famille, pas du tout. Et donc, comme ils sont moins à cheval, donc il y a des répercussions dans la vie de cette jeune fille parce que elle est punie à cause de ça. Et oui. ça m'est beaucoup, beaucoup arrivé.
Voilà, où on a un préjugé sur des gens sans savoir ce qu'ils vivent à la maison. Exactement. Et on colle des étiquettes. On entend souvent les Africains sont en retard, oui. Alors qu'avant, tu as travaillé pendant 3 heures à la maison.
Oui, voilà, c'est ça exactement. Où on s'occupe des petits frères et des petites sœurs. Vous ne pouvez pas laisser une petite sœur ou un petit frère qui est en train de manger en disant je vais le laisser en plein milieu. C'est qu'on est responsable, on a d'autres responsabilités.
Là, donc je vais continuer sur cette lancée. Un autre passage aussi pour le contexte à la maison.
Oui.
Pourquoi les garçons ne mettent-ils jamais la table? Pourquoi pouvaient-ils sortir sans chaperon, sans emmener un plus petit? Pourquoi rentraient-ils à l'heure qu'ils voulaient? Pourquoi étaient-ils plus libres?
Alors ça, c'est une question existentielle pour moi. Parce que j'ai trouvé ça terrible. Pendant très longtemps, je l'ai vécu comme une injustice d'être née fille. Dans le sens où je voyais la différence de traitement entre les filles et les garçons. Et ce n'était pas du tout logique. Comme ils étaient plus jeunes, ils avaient davantage de liberté alors que nous, nous étions plus âgés. Donc c'était assez paradoxal. Et souvent, je disais à ma mère, pourquoi tes fils, ils ont deux bras? Je dis, mais ils ont bien deux bras comme nous, deux mains. Pourquoi ils ne font pas la même chose que nous? Alors ma mère, elle me disait, c'est parce qu'ils sont des garçons. Alors je disais à ma mère, dans ce cas-là, on n'a qu'à leur couper leurs bras comme... Ça ne sert pas à la maison comme le ménage, c'était pour nous, nettoyer, c'était pour nous, la vaisselle, c'était pour nous. Donc ces tâches, elles prenaient le dessus sur toute autre chose. Donc nous, on nous préparait à être des bonnes épouses, des bonnes mères de famille, alors que mes frères, on leur apprenait à être des chefs et à jouir d'une liberté sans entrave. Alors que nous, la liberté, il a fallu qu'on l'arrache avec les dents.
Merci. Toujours dans le contexte de la maison, on manque de plus en plus de place. La maison est de plus en plus bruyante et je n'arrive pas à faire mes devoirs. Et j'ai choisi ce passage parce que voilà, ça fait 3 jours qu'on est ensemble déjà. Et lors des interventions, tu avais dit, mes parents ne sont pas allés à l'école, il n'y a pas de livre à la maison, même le... Un livre, c'est voilà un objet dont j'ai dû apprivoiser, mais moi j'étais attirée, voilà. Et comment tu as fait en fait pour malgré tout ce contexte,
c'est vrai que c'est
en arriver là.
C'est vrai, tu as raison, c'est difficile. Et je pense que ça arrive dans de nombreuses familles où il n'y a pas forcément un espace pour travailler. Nous, comme on était dans un appartement où il y avait 6 enfants, donc il y avait une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, 3, 3, une chambre pour nos parents, il y avait tout le temps du monde à la maison. Il y avait du bruit, il y avait du monde et c'était difficile de travailler. Donc moi, j'ai passé de nombreuses heures dans les bibliothèques. Quand j'étais jeune, dans les bibliothèques municipales et après dans des bibliothèques à Paris parce que c'était les seules qui étaient ouvertes le dimanche. Donc je quittais ma banlieue pour aller à Paris pour ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, je le vivais vraiment comme une injustice parce que j'avais la sensation qu'il fallait faire le double, quoi. Travailler 2 fois plus, parce que vous mettez un certain temps pour arriver jusqu'à Paris, faire la queue, parce qu'il y a des fouilles avant de rentrer à Beaubourg. Et ça, on le prend pas en considération. Qu'est-ce qu'on prend en considération? Le système, ce qu'il prend en considération, c'est la copie. Et que vous ayez répondu à des attentes extrêmement précises. Et donc, ils font abstraction. Mais nous, dans notre quotidien, on peut pas faire abstraction. Parce que ça fait partie de notre vie, parce que c'est nous. Et c'est ça que je trouvais très dur, c'est que le système ne s'interroge pas là-dessus. Il ne veut pas voir. Il va vous dire, oui, c'est l'égalité des chances. Moi, je ne crois pas du tout. Quand on part tous du même niveau, moi, je ne crois pas du tout non plus à ça. Je pense que dès la naissance, il y a des inégalités. Et je ne pense pas que l'école comble ces inégalités. J'y crois pas. Mais je pense que l'école peut permettre à des individus comme moi de sortir du milieu social, de sortir vers un ailleurs, de se créer, de se frayer un autre chemin, d'avoir une voie qu'il va choisir. L'école permet ça. Mais avant d'arriver là, tu batailles.
Et l'amour pour les livres, pour l'écriture, c'est venu tôt ou est-ce que vous écriviez déjà, tu écrivais déjà des poèmes ou un journal de bord avant d'écrire?
Non, pas jeune, j'écrivais pas. Non. J'étais même très complexée par rapport à l'écriture, j'avais la sensation que je ne savais pas écrire. Donc j'étais très très complexée, même quand je remplissais des copies, j'avais honte et tout. Donc moi, c'est ça que j'ai développé. Je pense que j'ai toujours gardé un peu ça. Ce côté où j'ai la sensation que je ne maîtrise pas assez l'écrit, que j'ai peur de me tromper, de mal faire, qu'on me reprenne dessus, qu'on trouve que oui, ma pensée n'est pas claire, ou faut que la pensée soit structurée, point 1, 2, 3. Alors que moi, dans ma tête, je ne pense pas 1, 2, 3, mais il faut que j'arrive à restituer ça. Donc ça, ça a été difficile. La lecture, la littérature, ça a pris une place très, très importante dans ma vie. Parce que dans un premier temps, moi, je lisais les autrices parlaient, comme je me souviens de Jamais sans ma fille, de Betty Mahmoudi, qui racontait ce qu'elle avait vécu en Iran, parce qu'elle a été séquestrée là-bas avec sa fille. Donc, je me souviens, j'avais lu cela. Après, j'avais lu Sota. Non, c'était pas Sota, c'était Vendu. Là, un père de Birmingham qui avait vendu ses 2 filles à des hommes au Yémen. Donc, dans un premier temps, je me suis plongée dans ces histoires de femmes. Ça m'a beaucoup, beaucoup nourrie. Et après, j'ai été dans une littérature plus classique parce qu'en parallèle, en allant à l'école, j'avais des profs qui m'ont montré cette autre voie. Et ils m'ont nourrie également pour que je puisse plus tard lire ces auteurs sans béquilles.
Parce qu'il y a une autre phrase où tu dis, voilà, la liberté s'acquiert par la connaissance. Et ça, je dirais, c'est vraiment ce qui te guide, en fait. Hein.
Moi, je suis convaincue, je suis convaincue de cela. La liberté s'acquiert par la connaissance. Et moi, j'avais une prof, quand j'étais au collège, qui faisait cette métaphore. Elle disait, mais imaginez, vous êtes des chiens. Il y a un poteau, vous avez une laisse, vous êtes attaché au poteau. Plus la connaissance s'accroît et plus vous avez de la liberté. Moins vous avez de connaissances et plus vous vous rapprochez du poteau. Mmh. Dis, la vie, c'est ça.
C'est une belle métaphore. Très belle. Voilà, donc on a vu un peu le contexte dans lequel tu as grandi, avec cette inégalité dès le début entre les rôles attendus des filles et des garçons. Et on voit que voilà, il y a déjà beaucoup de choses à dire et à déconstruire par rapport à ça, à l'éducation des filles et des garçons.
Oui.
Et voilà, je vais lire un passage dans le livre où la petite Maya rentre du Sénégal, où elle a été excisée par surprise, on peut dire. et elle arrive à l'école.
Oui.
Longtemps, ma douleur est restée muette. Je me rends à l'école, toujours avec cette démarche entravée et douloureuse. À la récréation, je ne joue plus. Les faux-semblants ont disparu. Je ne donne plus la peine de tenir mon rôle d'enfant. J'attends. Je crois que j'attendais qu'un adulte voie ma souffrance, détecte mon mal-être sans que j'aie à le formuler. Donc peut-être, voilà, si tu peux reprendre voilà, ce passage-là, oui. Et qu'est-ce que tu attendais des adultes et...
Bah, je trouvais ça ouais. Fort, dans le sens où cet enfant... Parce que là, dans un premier temps, je montre que c'est une enfant qui est très attirée par le monde des adultes, avant tout ça. Et après l'excision qu'elle subit, il y a quelque chose, il y a comme on l'a arrachée à l'enfance, on l'a arrachée à l'innocence, et elle retourne à l'école, et on fait comme si de rien n'était. Et c'est très explicite quand elle dit qu'elle marche avec une démarche saccadée. En tant qu'adulte, quand on voit un enfant qui marche difficilement, le rôle de l'adulte, c'est de demander pourquoi tu marches difficilement. Et là, on n'a pas voulu voir. Et comme c'est une enfant qui n'a, c'est-à-dire qu'elle prend les choses de manière frontale, cette petite fille, elle comprend que ils veulent pas voir et qu'elle n'aura pas de soutien non plus de ce côté-là. Alors, on n'a pas eu de la part de ses parents au moment de l'excision. Et que dans le monde de l'école, le monde qu'elle aime profondément et sa maîtresse qu'elle adore, ben là non plus, elle n'aura pas de soutien. Donc elle se résigne. Et c'est terrible, un enfant qui se résigne.
À 5 ans.
Ouais, c'est terrible, un enfant qui se résigne. Un enfant, c'est plein d'espoir, ça a de la joie, ça a envie de faire, et c'est prêt à rebondir. Il y a une force tout de même chez un enfant. Et cette petite, elle se dit, ben, c'est fini. Et... quelqu'un qui a même un adulte qui a mal et qui tait sa douleur, ce n'est pas supportable. Mais imaginez pour un enfant. Je pense que c'est plus fort encore.
Et donc, moi, je travaille aussi auprès des femmes excisées à l'hôpital Saint-Pierre tous les mardis matins au centre C'est ma vie, centre médical d'aide aux victimes de l'excision. Et les femmes me racontent le récit aussi d'excision. Et on voit vraiment qu'il y a un avant et un après, un peu comme dans le petit clip qu'on a entendu, hein, on a volé mon innocence. Et il y a le livre de Diarra Touba aussi, on a volé mon enfance. Enfin, c'est un peu ça. Hein, les plusieurs femmes témoignent que ce jour-là, qu'on ait 5 ans, 6 ans ou 7 ans, on vous plonge dans le monde des adultes, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est fini de jouer la récré, l'insouciance, en fait.
Oui, c'est ça. C'est ça, parce que même dans le livre, j'écris, c'est une enfant qui s'est allongée sur le pagne à même le sol. C'est une adulte qui se relève.
Qui se relève, oui.
C'est ça.
Et c'est tôt à 5 ans.
Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est très tôt à 5 ans.
Et donc, il y a un autre passage aussi pour voir le rôle des mères. Je ne comprends toujours pas pourquoi nos mères, qui ont été victimes à un moment donné, répètent ce supplice et en ce sens s'en prennent à leur propre géniture. Nos mères savent ce qu'elles font. Elles nous envoient à l'échafaud pour couper l'organe consacré au plaisir. Le plaisir pour une femme est banni. Il n'y a pas d'un côté les victimes et de l'autre les bourreaux. Ils sont interchangeables. Et ça, c'est une question qu'on a tout le temps au GAMS quand on donne des formations. Mais comment des mamans qui l'ont vécu peuvent le faire à leur fille? Alors, comment
c'est vrai.
Tu analyses ça? Ouais.
Ben, dans le sens où les mères, quand elles font subir l'excision à leur fille, elles pensent le faire pour le bien de leur fille. Donc, il va de soi que c'est un acte terrible, nous sommes toutes et tous d'accord. Mais elles ont ça en tête et elles pensent que ça fait partie du processus d'éducation. Et en plus, comme nous sommes des filles, elles pensent que ça fait partie de notre vie de souffrir, que la douleur fait partie de notre vie et il faut la prendre très tôt. Donc ça marque la première douleur atroce, c'est l'acte de l'excision. Et dans mon livre, c'est ce que je dis, Soso l'exciseuse, elle dit « Mais l'excision n'est rien comparé à la vie de femme qui les attend. » Donc ça permet de bien comprendre que ce sont des vies de femmes dures, où il y a énormément de souffrance, et en plus, elles taisent leur souffrance. Elles gardent, on dit, dans le livre, il y a un moment où je dis « Amumi sans son inke, Muniel sans Olof », et donc je décline, on dit « ça veut dire « prends sur toi ». Donc aux femmes, c'est ce qu'on leur dit, très jeune, prends sur toi, prends sur toi, prends sur toi. Donc sur l'excision, c'est aussi prends sur toi. Avec ton mari, t'es pas bien, il se passe des choses atroces, prends sur toi. Et surtout, parle pas, quoi. Mais prends sur toi.
Oui, les petites filles qui hurlent ou qui crient lors de l'excision, on leur dit qu'elles n'ont pas été assez courageuses, ouais, et que c'est la honte pour la famille.
Oui, elles n'ont pas été dignes.
Ouais.
C'est-à-dire que la dignité, ça veut dire que... Là, ça veut dire que vous voyez comment on formate des individus en leur disant que bah, la douleur, c'est normal. Et quand tu as mal, t'es ta douleur. Et donc, nos mères, elles ont grandi dans cet environnement. Et elles pensent, elles disent, bah, il faut que les filles, on les excise, parce que l'objectif premier pour nos mères, c'est qu'on se marie et qu'on fasse des enfants. Et parfois, il y a cette croyance qui persiste malheureusement de dire, bah, si t'es pas excisée, tu trouveras pas de mari. Donc, vous imaginez quand... on pense qu'une éducation réussie, c'est quand votre fille est mariée et a des enfants. Et là, on pense que c'est à cause du fait qu'elle ne soit pas excisée, elle ne trouve pas de mari. Donc, on fait tout pour l'exciser afin qu'elle trouve un mari. Donc, c'est pour ça qu'on nous excise. C'est parce qu'il y a une, certes, il y a une volonté de contrôle du corps de la femme. On a très peur que la femme, comme j'ai déjà entendu dire, qu'elle aille à droite, à gauche. Et il y a tout de même un élément important à prendre en considération quand on parle de schéma de répétition. Le schéma de répétition intervient quand il n'y a pas de réflexion. À partir du moment où il y a une réflexion, on ne répète pas parce qu'on prend conscience de ce qu'on a subi. On reconnaît ce qu'on a subi. On reconnaît la douleur et la souffrance qu'on a subi. Et généralement, quand on a cette prise de conscience, on ne la répète pas chez ses filles. Et nos mères, quand nous étions jeunes, elles n'ont pas eu cette prise de conscience. Moi, ma mère, elle a quitté un continent pour un autre. Elle ne maîtrisait pas la langue. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et elle a fait avec ce qui lui a été légué par sa propre mère. Donc, pour sa propre mère, c'est comme ça qu'on élève les enfants. Donc, elle, elle a fait comme ça.
Voilà. Et tu donnais la place du mariage, hein, et du mariage souvent arrangé... et même plutôt forcé. Et donc, il y a un autre passage qui aborde la question du mariage. « J'ai 22 ans et je vais me marier avec un homme choisi par mes parents. Je ne voulais pas l'épouser, alors on m'a forcé. Dans un premier temps, on m'a demandé mon avis, j'ai répondu non. Et puis, on a continué à me questionner à propos de mon refus. Toujours avec un ton de plus en plus insistant, de plus en plus agressif, et j'ai fini par céder. » J'en avais assez de tous ces appels téléphoniques, de toutes ces personnes qui me rendaient visite afin que je cède.
La pression.
Ouais.
Ça, c'est la pression qu'on met pour... Je pense que c'est aussi un moyen pour nos familles de se dire bah, « elle a dit oui, quoi ». Sauf que la question étant, dans quelles conditions elle a dit oui ? Si c'est parce qu'elle a reçu des pressions du père, de la mère, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des voisins, des voisines, c'est dur de tenir, hein. Psychologiquement, en plus, il y a un élément à prendre en considération, c'est que les jeunes filles, elles vivent toujours chez leurs parents. Donc, elles sont à portée de main. Et c'est très dur, en plus, quand bah, souvent, elles sont lycéennes, elles étudient. Donc, elles ne sont pas autonomes financièrement. Donc, elles sont vraiment sous la coupe. Et au bout d'un moment, il y en a certaines qui flanchent, parce qu'il y a aussi la culpabilité. La mère qui peut faire du chantage, le père également. Si tu l'épouses pas, t'es plus ma fille. Si tu l'épouses pas, remets plus les pieds ici. Et quand vous n'avez pas un autre endroit où aller, ben vous finissez par céder. Et j'ajoute tout de même que tout ceci se passe en Occident. Moi, les mariages forcés que j'ai vus, c'est en région parisienne. Et
on a la même situation en Belgique.
Oui, exactement.
La même situation.
Oui, je pense que si ça se passe... À Paris, ça se passe à Bruxelles et ailleurs, en Espagne et ailleurs, quoi.
Effectivement, et des jeunes disent oui sous pression. Alors les parents disent, elle a dit oui, mais il n'y avait aucune liberté dans le
oui, groupe,
parce que la pression était telle, si on te met dehors, on va répudier ta mère.
Oui, voilà.
Souvent,
contraint.
Si une fille est rebelle, on dit à la mère qu'elle l'a mal éduquée, et donc ça retombe sur la mère. Et par loyauté, des
elles
filles vont dire oui.
Elles se sentent obligées pour protéger leur mère également.
Et donc, la conséquence du mariage forcé, pour moi, c'est le viol. En tant que sage-femme, assez ma vie, j'ai vu beaucoup de femmes mariées de force. Il y a même une femme qui m'a dit « Pourquoi vous me posez la question ? Parce que chez nous, c'est que des mariages forcés. Il n'y a aucune fille qui choisit. » Et alors, la première nuit de noces, c'est un viol. Et je me rends compte qu'en fait, que dans les passages qui ont été choisis pour les jeunes, Il y a un passage qui n'a pas été choisi du livre et je pense peut-être qu'il était trop dur. Moi, c'est un passage qui m'a beaucoup touchée. Je t'en avais parlé la première fois que je t'ai vue quand on a vu la série dédicace l'année dernière. C'est le passage du loup. Et ça résonne beaucoup avec ce que des patientes ont pu me raconter. Donc, je vais faire une entorse au jeu, à la règle. Je vais lire directement voilà, dans ton livre. Mes parents ont tant attendu qu'ils ne m'écoutent plus. Il n'y a plus de temps à perdre. Ils doivent penser que je cherche à me dérober encore et je mens. Ma mère, mon père, mes oncles et mes tantes ont donc ordonné le mariage. Eux contrôlent tout. Eux organisent ma déchéance. Eux organisent ma mort. Ce mariage est un viol organisé. On me lave. On me vêt d'un drap blanc. On danse. On mange. On rit. J'ai l'impression d'être morte et d'assister à mon enterrement. On me met dans un cercueil et on m'amène à lui. Je vais voir le loup. Il m'attend, assis sur le lit que l'on dit conjugal. Il m'attrape, retire mes vêtements, monte sur moi et enfonce son sexe dans le mien. Enfin, le loup dévore sa proie tel un affamé. À chaque coup de rein, il beugle. « Tu es à moi, tu es là pour moi, tu es à moi, tu es là pour moi. » Encore et encore. Et il a raison, je suis sa chose. Je suis là pour assouvir ses instincts. La douleur est insoutenable, je le supplie d'arrêter. Mais le loup ne voit rien, n'entend rien. Enfin, il s'arrête et se retire. Un liquide visqueux sort de cette intimité qui ne m'appartient plus. Le loup s'endort. Avec sur le visage un grand sourire de satisfaction. Et ce passage, il m'a beaucoup touchée, parce qu'il résonne, je peux dire, de centaines de récits de vie de femmes qui sont venues en consultation, avec un souvenir, mais comme si c'était hier, de cette nuit-là. Et c'est pas souvent compris, où ici on dit oui, le mariage est le plus beau jour de ta vie, et qu'est-ce que. Et en fait, pour la plupart des femmes qui ont vécu un mariage forcé, ben, leur mariage c'est un viol, c'est une violence, c'est un trauma. Et quand ensuite on a des femmes qui viennent en consultation pour dire madame, j'ai pas de plaisir, je voudrais la reconstruction du clitoris, ou je veux. Ben, moi je rediscute toujours, mais. C'est un mariage d'amour? Est-ce que la personne avec qui vous vivez, vous l'avez choisie? Comment ça s'est passé? Et elles me disent, non, j'ai pas subi de violence. Et alors je dis, mais à quel âge on vous a marié? 15 ans. Et là, je commence à détricoter et à dire, 15 ans, c'est tôt. Et alors là, elle me raconte après la nuit de noces et elle me dit, c'était horrible. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc j'aimerais bien que tu réagisses aussi à ce passage-là.
C'est vrai que c'est un passage qui est très, très fort. Parce que je raconte de l'intérieur ce que vit une jeune fille française en région parisienne, dans une chambre, avec un homme qu'elle n'a pas choisi. Et je mets aussi en avant le fait que l'homme, il voit qu'elle n'est pas bien. L'homme, il voit qu'elle a mal. Mais il fait abstraction de tout ça. Pour son propre plaisir. C'est-à-dire que ce qui prime là, c'est son propre plaisir. C'est pour ça qu'elle a, elle a le sentiment d'être une chose à son service. Et elle a également ce sentiment-là quand on prépare le mariage. Parce que tout se fait sans elle. C'est ça qui est frappant. Tout se fait sans elle. On la lave, on l'habille, on organise tout. Et il n'y a pas un moment où on se soucie de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Et c'est la même chose quand elle était enfant. Quand elle subit une excision, personne ne se soucie de savoir si elle va bien, elle va mal. À l'école non plus, on ne veut pas voir. On détourne le regard. Donc j'ai voulu mettre ces deux événements forts en parallèle, parce que quand on excise, c'est pour préparer au mariage. Mariage organisé, mariage forcé. Et je voulais vraiment mettre ces deux éléments en avant pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. Et c'est vrai que là, sur la question... du mariage forcé, et cette jeune fille qui finit par céder, qui se retrouve avec cet homme, qui en a strictement rien à faire de ce qu'elle éprouve, de ce qu'elle ressent. Et parce qu'elle est tout de même docile. Elle est tout de même docile, donc elle accepte, entre guillemets, quand je dis elle est docile, ça veut dire qu'elle ne se défend pas physiquement, elle se bat pas, parce qu'elle sait que déjà qu'il y a la famille qui est pas loin, qui a l'oreille. Et c'est ça que je trouvais rude. Parce que les femmes dont tu parles, que tu accueilles depuis un certain temps, quand tu leur dis « mais comment ça s'est passé votre mariage ?» et qu'elles disent « bah non, je ne fais pas de violence », déjà, là, ce qui est frappant, c'est quelle définition met-elle à la violence ?
Ouais,
ouais. Ça, c'est frappant. Et sans doute, la définition n'est pas la même. Et peut-être aussi, quand autour de vous, vous avez que des femmes qui ont connu des mariages forcés, qui ont donc connu pour certaines un nombre important des viols, on va dire que mais ça, c'est normal. Ça, c'est ton rôle de femme. Ton mari, il a envie, donc tu dois assouvir les désirs de ton mari. Est-ce que tu ressens, peu importe.
Et même au-delà d'assouvir les désirs de son mari, je parlerai peut-être plus largement des hommes, parce que je fais du dépistage systématique aussi aux violences sexuelles pendant l'enfance et à l'inceste. Et la prévalence est énorme, énorme. Donc je sais qu'en France, quand Camille Kouchner a sorti La Famille Agrandie, ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de dévoilements d'inceste. Et sur certains comptes Twitter, voilà, de communautés d'origine d'Afrique subsaharienne, ils disaient « t'as vu les Blancs, nous, ça, c'est eux qui ont des problèmes ». Et je sais qu'il y avait une activiste qui avait dit « non, non, mais nous aussi, il faut qu'on regarde dans nos familles aussi, on a de l'inceste, mais il y a une telle chape de plomb qu'en fait, on n'en parle pas ». Mais quand ça sort, bien voilà. Et donc, je fais du dépistage systématique en disant, voilà, on sait que c'est fréquent. Et donc, justement, je dis, malheureusement, c'est universel, les violences faites aux filles et aux femmes. Et donc, c'est très fréquent. Dans chaque classe, on sait qu'il y a deux ou trois filles ou même des petits garçons aussi pour les violences sexuelles qui peuvent être touchées. Et de montrer ce côté universel, ça donne comme un droit de parler en disant « je pose la question à tout le monde, quelle que soit la couleur de la peau, la nationalité, toutes les femmes qui passent dans mon cabinet, je pose la question, parce que malheureusement, ça n'a pas de frontières. » Et là, j'ai des dévoilements, mais de petites filles qui ont subi des attouchements, des viols par des cousins, par un oncle, par un ouvrier qui était là dans la maison alors que ses parents étaient sortis. Enfin, et donc le fait que le corps des femmes soit un objet, une chose, à la merci des hommes, c'est que ça va plus loin même que dans le couple en fait, je dirais. C'est vraiment toute la vie, tout ce continuum de violence pour ces filles.
Oui, c'est ça, depuis l'enfance.
Ouais.
Jusqu'à, peut-être j'allais dire jusqu'à leur mort. Il y a, comme tu dis, il y a une chosification du corps de la femme, c'est-à-dire qu'il y a des attentes très précises qu'on attend. Et on est prêt à tout pour que cette femme entre dans les clous, quoi. Ouais. Et on est prêt à aller très très loin. Quand on parle d'excision, quand on parle de mariage forcé, c'est que l'objectif, il y a un objectif et il faut atteindre l'objectif, peu importe ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, parce que c'est un élément à prendre en considération, c'est que l'individu n'existe pas. Et comme l'individu n'existe pas, on ne prête pas attention à ce qu'elles peuvent ressentir.
C'est le groupe.
C'est le groupe qui prime sur l'individu. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on ne se marie pas pour soi. On se marie pour se consolider les liens familiaux. Donc l'amour...
ça passe après. Et voilà, donc là, je pense qu'on est allé pas mal dans les constats. Et j'aimerais bien qu'on parle maintenant... de comment on garde un optimisme quand même, changer tout ça. Hier, dans un interview, tu parlais des puits de lumière. J'ai beaucoup aimé. Tu disais, voilà, il y a des hauts et des bas. Mais je me raccroche à des puits de lumière qui fait que je suis toujours debout et que j'avance. Donc, il y a quand même des belles choses qui se passent. Hein. On voit aussi dans le documentaire... À nos corps excisés, merci. Où on voit ta maman qui, au fil du documentaire... change. Au départ, elle dit « Ma fille, tu ne dois pas prononcer le mot excision, pas à la télé, pas à la radio, comme un gros mot. » Et puis à la fin, en soninké, qui dit « On ne touche pas à mes petites filles. » Donc là, c'est un super cheminement. Et le tournage a pris combien de temps de ton film, du documentaire?
Peut-être 2 ans. On a pris quand même.
Ouais, quand même.
On a pris pas mal de temps. Parce que moi-même, pour ce film, il y a des moments où je n'étais pas bien. Et après le tournage...
Tu as dû faire des pauses.
Ouais, et des pauses. Ouais. Après le tournage, il y a eu un moment après le tournage à la PJJ, donc on a fait une pause parce que je pense qu'on ne se rendait pas compte, en tout cas l'équipe avec qui j'ai travaillé ne se rendait pas forcément compte qu'on travaillait sur un trauma. Et ils n'avaient pas conscience de ça.
Qu'on ne peut pas être et donc, à 100% tout le temps.
Voilà. Oui, mais c'est ça, et c'était très compliqué aussi. Et après le Sénégal, après avoir tourné au Sénégal, quand je suis revenue, J'ai dit, j'arrête de tourner, j'en pouvais plus. Je savais que si je continuais, j'aurais fini en dépression nerveuse. Je le sentais qu'il fallait tout arrêter. Et c'est mon agent qui est intervenu en disant, bah là, vous laissez Alimata tranquille parce que c'est pas possible. Donc, parce que c'est du don de soi. C'est ça que les gens, peut-être, ne comprennent pas. C'est vraiment du don de soi.
Puis c'est un sujet qui te touche parce que voilà, si je fais le parallèle avec mon militantisme, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis avec Kadia Diallo, la fondatrice du GAMS, et maintenant Diariou, la nouvelle présidente. Donc, je me classe dans les activistes parce que je ne compte pas mes heures, mes nuits. Oui. Et voilà. Mais voilà, je suis blanche, je suis européenne, je n'ai pas été excisée. Donc, même si je passe des heures et des heures, ça ne me rappelle pas un trauma, ça ne me rappelle pas mon propre corps qui a été coupé. Et donc je peux être dans l'empathie parce que j'ai, en tant que clinicienne, que sage-femme, j'ai accouché des centaines de femmes, enfin voilà, qui avaient des excisions, des infibulations en Somalie. Donc j'ai vu des bébés morts à cause de l'infibulation. Donc moi, c'est plutôt ce côté-là, en tant que soignante, où j'étais à côté des femmes qui ont souffert, qui ont perdu leur bébé. Moi, c'est mon message que je peux donner. L'impact sur la santé, c'est mon engagement. Mais l'engagement d'une femme qui a été elle-même excisée, c'est pas comparable, quoi, parce que tu... Moi, j'ai pas cette pression de la communauté en me disant « Mais de quoi tu parles, Fabienne ?» Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'être ensemble, mais il faut, faut reconnaître ça, que pour les femmes qui ont été victimes d'excision, c'est pas facile. Toute la journée, on peut pas parler que de ça.
C'est ça, exactement, c'est ça. Parce que sinon, tu... Je pense que tu me le dis et tout, mais je pense que les gens avec qui on travaille ne le comprennent pas. Il y a un moment où ils font totalement abstraction. Et c'est très dur parce que tu dois passer ton temps à expliquer. Donc tu expliques une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois. C'est fatigant et tu sais que tu parles, mais tu sais que... Alors on dit oui, j'ai compris, mais tu sens que... Non, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Donc on parle souvent de la question de l'excision. C'est vrai que c'est compliqué dans nos familles et tout, mais c'est également compliqué en dehors de nos familles aussi. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, quand tu parlais de ma mère, elle a fait un énorme cheminement.
Ouais. C'est pour ça que malgré le sujet qui est difficile, il y a ces puits de lumière.
Oui, exactement.
Voilà. Et je trouve que c'est ça qui fait avancer.
Oui, ouais. Le fait qu'on soit toutes les deux face à face, ouais. Ça c'est aussi, on est en train de créer un puits de lumière.
Pour toujours.
Et un puits de lumière, donc à quoi se raccrocher.
Oui, c'est ça.
À quoi se raccrocher, ouais. Ça c'est vraiment très important. Et aussi, ce que je mets aussi en exergue, c'est comment à partir de cette douleur, vous pouvez en faire une force incommensurable. C'est-à-dire que là, tu tiens debout, quoi.
Ouais.
Tu vois ? Donc, ça, c'est vraiment aussi un élément important. Et c'est aussi, quand vous vous engagez, quand vous parlez, quand vous savez que ça peut protéger d'autres petites filles, ça fait sens. C'est-à-dire que ce que vous avez subi, même c'est atroce, mais ça, vous vous dites que si ça peut épargner d'autres petites filles, c'est gagné. Donc, on s'accroche à des petites victoires. Alors, c'est pas tout d'un coup. Ouais. Mais c'est des petites victoires à chaque fois.
Un travail de longue haleine.
Oui, voilà.
Donc, si on revient justement à notre campagne de prévention, il y a des débats interminables sur quelle est la meilleure stratégie. Donc, même dans les pays concernés, on est en train de dire on a essayé depuis 30 ans, on fait des choses, on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais dans un contexte européen, d'après toi, voilà... Quelle est la meilleure stratégie pour prévenir ces excisions pendant les vacances ?
Déjà, dire que ça existe, que le message passe partout. Oui, l'excision continue en 2023, ça continue encore. Pendant les vacances, c'est le moment où il y a le moment où il y a le risque le plus important. Donc, on doit tous et toutes être vigilants, que ce soit dans les différentes sphères de la société, politique, éducatif. Et également médical, ça c'est très très important, et que les gens aient l'information, c'est-à-dire que ça circule, les numéros de téléphone, les comptes Instagram, ou quand il y a une suspicion, que ça peut être de manière anonyme, qu'on puisse envoyer un message sur Insta. Là, tout le monde a un portable, c'est ça là, cet avantage, tout le monde a un portable, beaucoup de gens sont quand même connectés au réseau, ça veut dire qu'avoir l'information facilement et pouvoir contacter les personnes ressources facilement également. Que ça circule, quoi.
Que la parole circule.
Que la parole circule, que l'information
circule. Et qu'on sache qui contacter.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que par rapport à ce que vous avez fait, là, les marque-pages, oui. Ça, c'est facile. Vous pouvez avoir ça dans un agenda, peu importe, dans un livre et tout. Et que là, vous avez toute l'information. Ça, c'est vraiment très, très important. Et quand vous ne savez pas, quand vous doutez, vous ne savez pas, alertez tout de même. Et vous, vous êtes des professionnels. Vous savez mesurer le risque. En échangeant avec vous, vous verrez si...
En cas de doute, il vaut mieux appeler que de dire, je n'appelle pas.
Oui, c'est ça. Et on est tous responsables. On est tous responsables. Ça, c'est vraiment très important. À partir du moment où ça touche une petite fille, ça nous touche toutes et tous. Ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de religion, c'est l'humanisme. Quand on parle d'humanisme, ce qui te touche, me touche, et ce qui me touche, te touche. Ben là, il faut que ça devienne concret et véritable.
Et alors, il y a le rôle de la loi qui revient souvent. Oui. Donc, en Belgique, on a l'article 409 du Code pénal qui a été voté en 2000 et qui est mis en œuvre depuis 2001. Mais contrairement à la France, il n'y a pas eu de procès. Alors, on dit toujours, est-ce que ça veut dire que la Belgique est mieux et qu'il n'y a pas de pratique de l'excision sur le sol belge? Je ne le crois pas du tout. Moi, je pense que c'est plutôt que les cas ne sont pas remontés à la surface, parce qu'on sait qu'il y a eu de l'excision sur le sol français. J'en ai eu la preuve aussi par des témoignages en Angleterre, en Hollande, et on se dit pourquoi la Belgique est au milieu, aurait été épargnée. Donc, moi, je pense qu'il y a eu des cas d'excision en Belgique, que ce n'est pas remonté. Je sais que la question du secret professionnel, elle est un peu différente aussi en Belgique ou en France. En France, on doit dénoncer, en Belgique, on peut. Donc, on peut dénoncer si l'enfant est en danger immédiat. Alors, quelle est la définition de danger immédiat? Ou s'il y a d'autres enfants dans son entourage à risque? Alors, est-ce que l'entourage, c'est les autres petites sœurs ou est-ce que c'est les cousines? Vous voyez, donc, il y a aussi... Donc, si on pense en fait de manière très européenne, famille mononucléaire, papa, voilà, papa, maman, frère et sœur. Mmh. On va dire, ah, je viens d'examiner, les deux sœurs sont excisées, eh bien, c'est dommage pour elles, on ne peut plus rien faire et on s'arrête là. Et comme elles ne sont pas en danger de mort, maintenant je les vois, c'est cicatrisé, je ne dis rien, mon secret professionnel, parce que voilà. Et moi, je me dis, mais les petites cousines. Donc, si le médecin ferme les yeux, la maman peut dire à sa sœur, ben voilà, tu peux le faire pour mes nièces. Parce qu'en fait, les filles, c'est passé. Elles ont été examinées. Mmh. Le médecin n'a rien relevé. Mmh. N'a rien.
Et là, la parole, elle circule.
Voilà, oui, c'est ça. Et moi, je pense que c'est pour ça, pour moi, il faut vraiment, à chaque fois, si on voit des cliniciens voilà, qui, lors d'un examen, voient une enfant excisée ou une femme excisée, les mots doivent être posés.
Et ça, c'est le gros problème. C'est le très, très gros problème que les médecins n'osent pas. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu « ouais, mais j'ose pas, j'ai pas les mots », ou c'est vraiment regrettable parce que si c'est l'occasion de déclencher une discussion dès que vous voyez une femme ou une enfant, c'est l'occasion. Parce qu'il faut savoir, surtout pour les sages-femmes, les infirmières, les médecins, les gynécologues, généralement, en plus, ces femmes, quand elles vont voir le gynéco, c'est qu'elles sont enceintes. Il y en a peu qui ont un suivi régulier avec un gynécologue. Donc, vous imaginez, donc, il y a très, très peu d'échanges sur cette partie du corps, tout de même, qui est très importante. Donc là, quand on voit qu'il y a une excision, c'est intéressant d'échanger avec la femme, de savoir... où est-ce qu'elle en est, même dans ce processus de reconstruction? Est-ce qu'il y a une reconstruction, pas reconstruction? Est-ce qu'elle a accepté, elle n'a pas accepté? Est-ce que... Parce que derrière aussi, c'est ce que tu disais précédemment, qu'il y a des risques au moment de l'accouchement. Donc c'est tout de même un élément important. Et parfois, je pense qu'il faut le dire, ça. Que les risques liés à l'accouchement sont liés à l'excision, que la mère entende ça. Parce que derrière, ça va la faire réfléchir également. Parce que si vous êtes face à une femme qui trouve ça tout à fait normal de l'excision qu'elle a subie, et qu'elle a des filles, là, quand même, ses filles sont en danger. Si la femme n'a pas compris, ses filles sont en danger. Et c'est un médecin qui m'avait raconté, c'était une femme qui venait, je crois, d'Afrique de l'Est, qui avait, elle avait subi une infibulation, donc vous imaginez, elle a accouché, et après, elle avait demandé d'être recousue. Et alors là, les médecins étaient désemparés, parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à cette demande. Et alors, il ne l'a pas recousu. Hein. En France, c'est interdit par la loi, mais je pense que pareil en Belgique,
même
non?
Même chose, oui.
Mais par contre, l'hymen là, qu'on reconstruit, vous faites ça en Belgique ?
Reconstruit de l'hymen, alors ça dépend des endroits. Je sais qu'au CHU Saint-Pierre, ils ne le font plus en disant on contribue en fait aussi à la pression sociale sur les filles en continuant à reconstruire des hymens. Alors, certaines cliniques privées en ont fait leur chou gras. Et il y a des filles qui payent 3000 euros pour une toute petite, 2-3 points à l'intérieur du vagin. Donc ça aussi, c'est une pression sociale sur les filles, les tests et les contrôles de virginité. Et l'Organisation mondiale de la santé, maintenant, c'est très très clair, a interdit les tests de virginité en disant que c'est une violence faite aux filles et surtout qu'on ne peut jamais garantir à 100% la virginité d'une fille juste par un examen clinique parce que les différences anatomiques de l'hymen sont très variables selon les femmes et donc on ne peut jamais... Voilà. Et malheureusement, il y a des mamans qui continuent à traîner leurs filles chez le gynéco pour faire ce test. Et là, je crois aussi qu'au lieu d'accepter, en fait, il faut parler avec les mères, il faut expliquer. Même la question de la virginité, 50% des filles ou des femmes, des jeunes femmes, ne vont pas saigner lors du premier rapport. Et cette idée d'avoir le drap blanc avec la tache de sang comme preuve de virginité, même pour les filles vierges qui n'ont pas eu de rapport avant, il y en a 50% qui ne vont pas saigner. Et ça devrait être enseigné pour déconstruire, parce qu'à côté de ça, il y a des filles qui vont aller soit se couper un peu, ou soit prendre du sang de poulet. Après, il y a plein de choses qu'on peut acheter, des petites ampoules pleines de sang. Mais on entretient, donc c'est tellement...
Oui, c'est ça, on entretient.
Ouais, c'est ça, on entretient, en fait.
C'est ça qui est... C'est très complexe, hein,
C'est hypocrite, voilà. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde sait que c'est factice, mais on continue.
Ouais. C'est-à-dire, c'est juste pour garder... Garder la face. Mais c'est vrai que c'est encore une problématique. Là, sur la question de l'excision, on est aussi là-dessus. Il y a une sacralisation de la virginité.
Ouais.
Et donc, la sacralisation de la virginité fait qu'on est prêt à aller très, très loin pour prouver aux autres que la fille est vierge. Pour eux, c'est comme si c'était un gage d'une éducation réussie.
Et on va jamais demander au garçon, même si le garçon a eu plusieurs expériences avant le mariage, on va plutôt le valoriser en disant comme ça, il sait comment faire, il a de l'expérience. Et on voit que l'honneur de la famille repose en fait sur les épaules de la fille. Donc la fille, elle a beaucoup apporté. Hein. Elle a tout l'honneur.
Écrasante.
Ouais. Donc je voulais revenir sur notre campagne. Donc tu as dit l'importance de libérer la parole, que les professionnels parlent. Et effectivement, moi, en tant que sage-femme, il y a quelques années, on avait commencé un atelier et qu'on continue toujours, femmes enceintes au GAMS, où avec des sages-femmes, on anime 3 ateliers pendant la grossesse et un avec les bébés. Et on voit effectivement des femmes enceintes qui nous disent lors des séances, je ne comprends pas, j'ai vu 3 fois mon gynécologue, je suis excisée, je le sais moi-même, mais lui ne m'en parle pas. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai honte, je ne sais pas, ça fait bizarre que ce soit moi qui lui demande s'il a vu. Lui, c'est le professionnel, il devrait m'en parler. Et on voit en fait qu'il y a la peur des deux côtés. Et donc on pense qu'il y a un peu de catégorie. Il y a des médecins qui voient et qui disent rien parce qu'ils ne savent pas quoi dire et ils ont peur que ça va leur prendre trop de temps d'explications. Ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Ou alors ils mettent encore ça en disant c'est une violence, c'est pas vraiment... Non, c'est la culture, c'est pas vraiment une violence, où ils minimisent en fait l'acte. Et puis d'autres, je pense, qui ne voient pas du tout, parce que on pose le spéculum, on fait un frottis, on regarde pas la vulve, et ça, il y en a franchement, je pense, qui passent à côté, parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Donc il y a un vrai travail de formation. Donc nous, on se bat pour que la question des mutilations génitales, mais plus largement des violences faites aux femmes, soit intégrée dans le curriculum des professionnels. Parce que sinon, on va passer notre temps à faire de la formation continue. Et c'est beaucoup plus dur d'aller former les milliers et les milliers de personnes déjà formées que de prendre
dans un cursus.
À la base. Donc ça, c'est vraiment un gros travail à faire. Et puis l'autre chose qui serait notre rêve, c'est essayer de ne pas stigmatiser les petites filles issues des pays concernés par l'excision et de dire il y a plein... d'autres formes de violence. On parlait du mariage forcé qui, là, du coup, touche beaucoup plus de communautés que celles qui existent. C'est beaucoup plus large. Les violences sexuelles, ça touche tout le monde. Violences conjugales, ça touche tout le monde. L'inceste aussi, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, quel que soit son niveau socio-économique ou d'éducation. Et nous, on a pour projet au GAMS de prendre tout ça ensemble, c'est-à-dire inceste, violences sexuelles, excision, de le traiter en un seul sujet, qui sont l'atteinte à l'intégrité des enfants dans les écoles, et pour qu'il y ait une meilleure écoute des enfants. Les enfants ne sont pas écoutés, ou quand ils parlent, on prend tellement en mal, en charge leur cas, que c'est pire à la maison, ils se prennent la raclée en sortant parce qu'on a été parler aux parents, alors que les parents, s'ils sont les agresseurs, ben, faut pas les inviter avec l'enfant, en tout cas, à la table de médiation, ça se fait pas. Voilà, donc on espère qu'on pourra atteindre ce but-là. Et de pouvoir mieux dépister les violences sexuelles et les mutilations génitales chez les enfants et de prendre ça comme
quelque chose
voilà, un
mais seul. Mais c'est vrai sujet. Que je dirais, moi, la différence que je fais entre les deux, le propre de l'inceste, c'est que c'est condamné par toutes les sociétés. L'inceste.
Ouais.
Et l'excision, non. C'est toute la difficulté. Je trouve, quand il y a des sociétés qui acceptent et qui pensent et que ce n'est pas du tout condamné, ça veut dire que certes, on trouve de l'inceste dans toutes les sociétés, mais dans l'organisation des différentes sociétés, l'inceste est interdite, même si ça continue.
Oui, sauf qu'en réalité, pour moi, la ressemblance, c'est qu'il y a le même tabou du silence.
Oui,
c'est-à-dire, on dit aussi, dis pas à maman, sinon t'es mort. Enfin, le fait que l'enfant a compris aussi qu'il ne doit pas en parler... C'est là où je trouve le parallèle avec l'excision. Et l'autre parallèle, c'est que si tu en parles, eh bien, ça peut mettre tes parents en prison. Enfin, dans les deux côtés, fait au sein de la famille.
Ouais, mais je dirais que moi, en tant que victime, c'est pas la même chose quand tu sais que dans la famille, dans tes origines, c'est quelque chose qui est accepté et qui n'est pas condamné. Oui, et qu'à l'extérieur, ça devient condamné. Oui, alors que l'inceste, c'est parce qu'on sait... Parce qu'ils savent que c'est condamné, qu'ils te menacent et qu'ils te disent de te taire et tout.
Oui.
Parce qu'ils savent qu'à l'extérieur, il y a la loi qui sévit. Mais je comprends pourquoi vous avez associé les deux problématiques. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais réfléchi à cette question, c'est ça qui m'avait frappée. Oui. C'est que la difficulté, quand on combat l'excision, c'est qu'il y a des sociétés qui ne condamnent pas du tout cette pratique-là. Oui. Et c'est ce qui rend la tâche encore plus ardue.
Mais je me suis rapprochée aussi d'associations qui travaillent sur l'inceste. Et c'est vrai qu'au niveau des symptômes, on avait aussi quand même et des conséquences physiques et psychologiques. Il y avait quand même beaucoup de ressemblances aussi par rapport au fait de reprendre à faire pipi la nuit, les douleurs pour uriner, les douleurs dans le ventre. Voilà, il y avait le trauma et le fait qu'on peut se dissocier. Parce que si on s'est dissocié au moment des violences, on peut de nouveau, sa mémoire traumatique peut de nouveau flamber à d'autres moments de la vie. Donc voilà, il y avait, mais je suis d'accord qu'on ne peut pas tout mettre en parallèle, mais l'idée c'était de pouvoir ne pas oublier certains types d'enfants qui auraient subi tel type de violence, mais
je ne suis pas pour qu'on oublie.
Oui, mais je comprends qu'il y a aussi des différences. Voilà. Donc on va arriver à la fin de notre entretien.
Oui.
Et alors, je voulais revenir sur la dédicace de ton livre. Mais en fait, je crois que c'est la même dédicace que le reportage que je viens de voir.
Oui, c'est la même.
Et alors, tu dédicaces ton livre et le reportage à mes parents et à Céline Dion. Alors, je voulais que tu me dises d'abord un mot. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes parents? Et puis, on terminera par Céline.
Ah oui, c'est vrai que j'ai dédicacé le livre et le documentaire à mes parents parce que, comme je l'ai dit, ma mère, elle a joué le jeu, elle a accepté de parler dans ce documentaire. Donc pour elle, c'est énorme qu'elle parle publiquement et parce que je ne voulais pas réduire mes parents à l'acte de l'excision. Je ne voulais pas les réduire à ça. Parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus que ça. C'est ce que je dis aux mineurs délinquants avec qui j'ai travaillé. Je dis, vous êtes plus que le gars qui a commis des violences. Donc, mes parents ne se résument pas à ce qu'ils ont fait à un moment donné. Mes parents, je trouve qu'ils ont été braves, courageux. Ils ont tout de même élevé 6 enfants, aucun délinquant. Je tiens quand même à le préciser parce que on entend parfois des discours très négatifs. Et moi, je suis fière d'eux. Moi, mon père, vous savez, il a été boueur pendant 20 ans à la ville de Paris. À l'époque, on offrait des diplômes. Donc mon père, il a reçu un diplôme de Jean Tiberi pour ses 20 ans consacrés à la ville de Paris. Alors, chez mes parents, il n'y a aucun diplôme, sauf celui de mon père. Donc mon père, dans le salon, il a raison, on n'est jamais
vu ça. Oui, je l'ai vu, parce que dans le documentaire, on voit le gros plan.
Voilà, le grand diplôme. Ça, c'est mon père. Parce que lui, il ne met pas les diplômes de ses enfants, il met le sien. Et il a raison, hein. Comme ça, il passe devant et il l'apprécie grandement. Et donc, vous voyez la fierté. La fierté, elle est là. Et moi, je suis tellement contente parce que d'un côté, ils m'ont transmis des valeurs très... La valeur du travail. Moi, mon père, il nous disait, il n'y a rien de pire dans ce bas monde que d'être un voleur ou un menteur. Donc, vous voyez, c'est des valeurs qui restent parce que je suis capable de vous les citer. Donc, moi, je suis très, très fière de mes parents. Alors, parfois, on s'engueule comme tous les parents, comme toi avec tes enfants.
Oui, voilà.
Mais je les aime et je suis très reconnaissante malgré tout. Parce qu'ils... Mes parents, ils ont traversé des choses très difficiles. Et comme ils ont été élevés, on pleure pas, on prend sur soi, donc ils disent pas. Mais je sais qu'il y a des choses lourdes qui sont encore très présentes en eux. Voilà pourquoi j'ai voulu dédicacer tout ça à mes parents. Et à Céline, en gros, j'ai dédicacé aux gens qui sont importants pour moi. Alors, il y a d'autres gens qui sont importants, mais bon. Je veux pas mettre des gens, je vais mettre des gens à dos, moi. Et à Céline Dion, parce que c'est une chanteuse que j'aime profondément. Alors, les gens se moquent, mais j'en ai rien à faire. Vous pouvez vous moquer autant que vous voulez, j'en ai strictement rien à faire. Ça ne me touche pas. Il y avait une journaliste qui avait fait un article où elle se moquait. Oh. Viens dans mes baskets. Comme les Québécois disent, viens dans mes baskets et vis ce que j'ai éprouvé. Et après, on en reparle.
C'est ça.
Et pour moi, Céline Dion, ça a été... comme ma marraine, voilà. Tu vois, moi, là, vous m'avez choisi comme pour la marraine de la campagne avant l'été, pour le Games Belgique. Et Céline Dion, alors, elle, je ne lui ai pas dit que je l'avais choisie, mais elle a été ma marraine. Elle m'a permis de croire en un avenir meilleur. Elle m'a permis de garder espoir. Elle m'a permis de me dépasser. Elle m'a permis d'apprécier la beauté. Quand vous êtes dans un univers où c'est très, très laid, parce que moi, j'ai grandi dans une cité, c'est très laid, très sombre. On a besoin de voir de la beauté. Et la beauté, je l'ai eue à travers sa voix. C'est ça qui m'a réconfortée, qui m'a nourrie. Et je me suis dit, ah, il y a des choses qui sont dures, mais l'être humain est capable de créer de très belles choses. La preuve, la voix de Céline Dion. Après, je suis très touchée. J'aime beaucoup aussi l'architecture. Je suis très sensible, donc j'aime beaucoup regarder et tout. Et je dis, pour moi, la voix de Céline, c'est l'émanation du divin sur cette terre. Quand j'étais jeune, quand je regardais par la fenêtre où je voyais des choses très laides, j'étais convaincue d'une chose, c'était que j'allais avoir un avenir meilleur. Je ne savais pas comment, par quel biais, mais j'allais avoir un avenir meilleur par sa voix. Donc le rêve de ma vie, c'est de lui dire ce que je viens de vous dire là, Fabienne. Mmh. Donc je compte sur vous.
Donc à tous les auditeurs, auditrices, si quelqu'un a un moyen de contacter Céline Dion, parce que le rêve n'est pas encore abouti, Ali Mata voudrait rencontrer Céline en vrai. Donc voilà, on lance une bouteille à la mer. Je crois qu'à Radio Panique, il n'avait pas Céline Dion en stock, mais on a Youssou N'Dour qui parle aussi beaucoup à Ali Mata. Et oui. Alors, sur les mots de Youssou N'Dour, on va se quitter et j'aimerais, Ali Mata, te dire un énorme merci. Voilà, je te côtoie maintenant depuis plusieurs jours. Tu es une femme qui m'inspire beaucoup. Tu es tellement riche. Chaque jour, je découvre des nouvelles facettes de toi. Donc, énorme merci et respect.
Un grand merci Fabienne pour tout ton travail, ton dynamisme, ton sourire. C'est ça, parce que c'est pas évident d'accueillir toute cette parole, parce que ce sont des souffrances, des douleurs. Mais t'es là, tu tiens debout. Et en plus, t'as toute une équipe, hein, parce que Fabienne, elle est très bien entourée. Un grand bravo pour ton travail, un grand bravo pour ton engagement. Merci pour tout. J'espère être à la hauteur de cette campagne.
Merci.
Merci. Yeah.
been mine.